Bonsoir, rentrés parlementaires, les députés et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple mardi dernier. À l'Assemblée nationale, la présidente de la Chambre basse, Jeannine Mabunda, a ouvert la session budgétaire et a appelé dans son discours. Le Premier ministre a déposé dans les délais le projet du budget 2021. Elle a en outre déploré ce qu'elle qualifie de montée d'une justice instrumentalisée ainsi que des attaques politiques susceptibles de perturber la quiétude nationale. Le président du Sénat, quant à lui, a dénoncé notamment le tribalisme qui envahit les réseaux sociaux et les antivaleurs. Au sud Kivu, au moins 50 creuseurs artisanaux se sont retrouvés ensevelis dans 3 tunnels de mines d'or à Kamituga vendredi dernier à la suite d'éboulements de terre. Ces éboulements ont été provoqués par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette région. La délégation du gouvernement provincial conduite par le ministre de la Santé et des Mines partie pour Kamituga est retournée à Bukavu mercredi. Le maire de Kamituga rapporte que 20 personnes sur un total pressenti de 50 victimes de l'éboulement de la mine à Kamituga ont été retirées des décombres et enterrées. Le maire ajoute aussi que le site d'exploitation concerné a été fermé sur décision du ministre des Mines. Pour évoquer tous ces sujets, nous serons avec Dionit Kaninda, journaliste responsable de la chaîne en ligne Congo Market TV. Dionit Kaninda, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur Radio Capi.
Mais aussi Jean-Marie Nkamboa, bonsoir.
Bonsoir confrères, nous sommes là, c'est un plaisir d'échanger et de mieux informer nos populations.
Vous êtes directeur de publication au quotidien L'Avenir et enfin Serge Banzaba, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC Matadi. Serge Banzaba, bonsoir.
Bonsoir chers confrères et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Dionit Kaninda, journaliste responsable de la chaîne en ligne Congo Market TV. Dionit Kaninda, à ce stade de notre émission, quel commentaire libre souhaitez-vous faire?
Je voudrais faire un commentaire libre sur un sujet d'actualité. Vous avez suivi que l'Union de la presse congolaise est en train d'organiser un congrès pour pouvoir mettre de l'ordre dans l'organisation. Mais le congrès a été décalé pour quelques jours. Mais après, vous avez suivi une conférence de presse de notre ancêtre, du patriarche, Malembe Tamandiak, qui a donné des points de vue allant justement dans le sens de saper cette organisation. Et après, vous avez suivi une réaction hier du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, qui soutient la tenue de ce congrès parce que nous estimons que nous devons sauver la profession qui n'exerce plus le journalisme, qui n'écrivent plus, dont leur dernier article date d'il y a plusieurs décennies. Mais ce sont ces gens-là qui gèrent les journalistes aujourd'hui, qui veulent diriger la commission de discipline pour juger les journalistes actifs. Et ça, nous disons qu'il faut que ça s'arrête. Et nous voulons remettre un peu de l'ordre dans cette organisation qui nous gère, parce qu'il n'est pas normal qu'on puisse vendre les biens de cette organisation. Il y a des parcelles qui ont été vendues, des concessions qui ont été vendues, et maintenant il y a même les appartements qui sont en menace d'être vendus parce qu'il y a des vieux qui sont malades, qui n'exercent plus, mais qui font de l'UNPC leur vache à lait. Ça, nous disons non, et nous attirons l'attention de tous les jeunes journalistes parce que cette profession est la nôtre, nous devons la protéger et la sauver. Donc nous ne permettrons pas que quelqu'un vienne parce qu'il est patriarche, parce qu'il est notre aîné professionnel, qu'il puisse brader l'Union, alors que nous savons dans quelles conditions les journalistes congolais travaillent aujourd'hui. L'UNPC ne défend pas les journalistes convenablement, simplement parce qu'il y a des personnes qui devaient faire ce travail-là et qui ne le font pas, qui laissent les tout sur les dos de un ou deux personnes au sein de l'Union. Alors nous disons non à ça.
Merci Dionit Kaninda. Jean-Marie Nkamboa, directeur de publication au quotidien L'Avenir, votre avant-goût informationnel.
Merci confrère pour la parole que vous m'accordez. Moi, au lieu de me jeter dans la polémique de Dionit Kaninda, même s'il y a beaucoup de choses à corriger et à redire, je voudrais tout simplement parler du camp Tchatchi où les ministres de l'urbanisme et habitat vient de dénoncer un certain nombre de faits. lorsqu'il a eu à effectuer une visite dans ces lieux, il a constaté que les maisons préfabriquées, dans les conditions dans lesquelles on les a placées, si rien n'était fait au courant de ces saisons pluvieuses, le pays risque la catastrophe. Donc concrètement, ces maisons ont été posées, ont été placées, ont été entreposées dans un contexte qui ne respectait pas les normes urbanistiques, à telle enseigne que nombreuses de ces maisons sont pratiquement à l'abandon. Et si rien n'est fait au niveau du gouvernement, c'est qu'une fois qu'il y aura une première pluie, elle va emporter toutes ces maisons et ce sera une perte énorme pour le gouvernement de la République qui a déboursé beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour leur commande ainsi que pour leur pour qu'elles soient posées dans ces lieux. Raison pour laquelle le ministre a d'abord préféré envoyer une autre commission d'experts sur place afin de pouvoir enquêter davantage, chiffrer. C'est par après que les rapports seront faits au gouvernement pour voir dans quelle mesure il faut intervenir urgemment afin de sauver cette situation qui est déplorable. Merci. Donc c'est aussi une image en quelque sorte de notre pays, où certains travaux ont été entrepris sans étude de faisabilité préalable, sans qu'on ait réuni assez de conditions. La conséquence est que les maisons ont été posées, mais dans l'ignorance totale des règles en vigueur, à tel enseigne que le gouvernement de la République est obligé de venir à la rescousse de ces projets si importants pour le président de la République.
Merci Jean-Marie Nkamboa, Serge Banzaba, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC Matadi. Votre commentaire libre.
Bon, il faut dire qu'il y a une information qui domine, surtout à Matadi, il y a l'arrestation des contrebandes, des gens plutôt des contrefacteurs, des gens qui sont là pour qui sont tentés de fabriquer des faux billets de francs congolais. Au total, c'est ce que nous avons appris à travers les médias. Ils ont été attrapés avec 50 millions de francs congolais, de l'argent fabriqué dans la ville de Matadi, avec la complicité des gens qui viennent de Kinshasa, et ça scandalise. Et une autre information qui ne domine pas, mais dont on parle à Matadi ici, c'est la suite. La population a soif de connaître la suite des gens qui ont été arrêtés, ceux qui ont tué l'honorable Ntimba, les citoyens de notre gouverneur ici. Nous voulons tous connaître la suite. Semble-t-il, il y en a qui ont été arrêtés. On se pose la question, à quand les procès? J'aimerais également placer un mot à propos de l'INPC. Nous soutenons tous cette structure, mais seulement nous plaidons pour qu'il y ait quand même des réformes, voire même la réforme de cette structure qui, selon moi, devient dépassée par rapport au texte qui les régit plutôt. Il faut d'abord commencer à revoir les textes qui organisent l'INPC pour que cette structure soit plus ou moins moderne.
Merci Serge Banzaba. Commençons notre premier sujet de ce soir. Rentrée parlementaire, les députés et sénateurs ont repris le chemin du palais du peuple mardi dernier à l'Assemblée nationale. La présidente de la Chambre basse, Jeanine Mabunda, a ouvert la session budgétaire et a appelé dans son discours le Premier ministre à déposer dans les délais le projet du budget 2021. Elle a en outre déploré ce qu'elle qualifie de montée d'une justice instrumentalisée ainsi que des attaques politiques susceptibles de perturber la quiétude nationale. On écoute à ce sujet la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda.
La République démocratique du Congo a été frappée par plusieurs événements malheureux ayant semé la mort parmi nos compatriotes. Il s'agit notamment des actes de barbarie auxquels nos compatriotes de Beni au Nord Kivu, d'Irumu en Ituri, dont 58 personnes massacrées lâchement par des groupes terroristes ADF et autres. Comment ne pas rappeler l'ignoble assassinat des élèves finalistes du primaire à Massissi, Tout en saluant l'action menée par nos forces armées et de sécurité, j'invite le gouvernement à doter ces dernières davantage de moyens en vue de faire face aux défis sécuritaires au-delà de ces violences. Il s'y est de faire remarquer le foisonnement dangereux d'un discours de haine dans notre société. Votre humble serviteur est depuis aussi un certain temps la cible privilégiée de ces discours de haine qui touchent à la dignité de la femme congolaise provenant d'officines bien identifiées, parfois en toute impunité, de certains protecteurs judiciaires et des responsables de ces structures.
Le président du Sénat, quant à lui, a dénoncé notamment l'ingérence de certaines chancelleries étrangères dans les affaires intérieures congolaises. L'essentiel de la déclaration d'ouverture d'Alexis Thambwe Mwamba avec Michel Kifinda.
Dans son discours d'ouverture, le président du Sénat est revenu sur la situation économique, sociale et politique du pays, marquée par la pandémie à coronavirus. Alexis Thambwe Mwamba a déploré les ingérences étrangères, la recrudescence de l'insécurité ainsi que les tensions politiques et sociales qui caractérisent de plus en plus la vie politique en RDC.
Certaines représentations diplomatiques s'érigent en conseillers d'institutions publiques et d'acteurs politiques en fonction. Le tribalisme envahit les réseaux sociaux, l'administration, les institutions de l'État et la cité.
En ce qui concerne le vote du budget 2021, le président du Sénat plaide pour la mise sur pied effective de la caisse de péréquation et d'un fonds pour le financement des élections.
Le budget 2020 avait alloué un montant de 1 082 milliards de francs congolais à la caisse nationale de péréquation. À ce jour, le sous-compte n'a jamais été alimenté. Je propose de créer un compte élection 2023.
Notez que la plupart des parlementaires interrogés ont salué la présence du sénateur à vie Joseph Kabila dans l'hémicycle, qui pour eux, je cite, « marque la beauté de la démocratie en RDC ». Fin des citations.
Dionite Kaninda, quel commentaire faites-vous à propos des déclarations de ces deux présidents de notre Parlement, Janine Mabunda qui dit un certain nombre de choses, mais lorsqu'elle cite notamment des discours de haine, avez-vous l'impression qu'elle s'adresse à tout le monde de manière générale ou avez-vous l'impression qu'elle tire un peu le drap d'un seul côté, peut-être son côté? Et à propos d'Alexis Thambwe Mwamba, l'ingérence étrangère, est-ce quelque chose qui surprend ou qui devrait surprendre Alexis Thambwe Mwamba?
Merci beaucoup. Moi, je crois que nous devons faire la part des choses. La première, nous condamnons les actes de tribalisme, d'appel à haine et des injures, des insultes. Ça, nous condamnons sur toute la ligne. Nous ne pouvons jamais encourager ce genre d'actes qui sont dénoncés ici par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et le tribalisme qui est dénoncé par le Président de la Chambre haute du Parlement. Mais seulement, il faudra reconnaître que Madame Janine Mabunda, Monsieur Thambwe Mwamba font partie des institutions du pays et ils sont toujours présents et même parfois, pour le cas du président du Sénat, il a brûlé le respect aux Congolais ou, si vous voulez bien, aux journalistes, aux magistrats et même à une sénatrice. Et le FCC, le regroupement politique, n'a jamais réagi pour demander un recadrage ou pour demander des excuses. Et même lorsqu'on demande des excuses, cela n'est pas fait de manière correcte. Ça, c'est d'une part. De deux, vous avez suivi plusieurs fois les hautes personnalités faisant partie du FCC qui ont même poussé les Congolais en les instigant à pouvoir proférer des injures. Tout le monde a suivi. Et pourquoi le FCC n'avait jamais condamné ce genre d'actes? Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez des militants, parce qu'ils parlent des militants, parce qu'ils parlent des officines, lorsqu'ils voient cela, ils commencent à condamner. Je crois que l'exemple doit commencer d'en haut.
Mais Dionite, vous pouvez avoir le sentiment qu'il y a des équilibres, mais fallait-il que ces personnalités en parlent, dénoncent quand même si dans le passé ça n'a pas été le cas, ou auriez-vous souhaité qu'en signe d'équilibre, puisque rien n'a été dit antérieurement, que rien ne soit dit non plus maintenant?
C'est pourquoi je disais qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Dénoncer, je suis bien d'accord, parce que moi-même, je dénonce aussi. Mais seulement, il faut commencer par prêcher par l'exemple. Il faut être des modèles. Lorsque vous êtes président du Sénat, vous devez être un modèle. Ce n'est pas en disant aux Congolais qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont favorisé la création, de ce qu'il a appelé une classe des imbéciles, qui ont aujourd'hui le pouvoir de parler sur la place publique. Ce n'est pas dans des termes comme ça que l'on peut être un modèle pour les Congolais, pour des gens qu'on est censé diriger. C'est là que j'ai dit, je suis d'accord que les autorités au plus haut niveau puissent dénoncer les actes barbares, les actes des insultes, des injures. C'est bien bon, je suis bien d'accord qu'on doit dénoncer, mais encore faut-il qu'on soit modèle. Il faut qu'on soit modèle lorsqu'on occupe des hautes fonctions de la République, que ce soit Madame Jeanine Mabunda en dehors, à l'égard du président de la République, que ce soit Monsieur Thambo Mwamba à l'égard de ses collègues sénateurs ou sénatrices, si vous voulez, ou alors les responsables des partis politiques vis-à-vis de leurs militants lorsqu'ils parlent, l'exemple doit partir d'en haut. Alors, nous ne pouvons pas non plus oublier les causes pour s'attaquer seulement aux effets. Pourquoi il y a eu insulte? Il faut voir les causes. Si souvent chez nous, nous oublions les causes, nous voulons traiter les effets en oubliant les causes. Et ça ne peut pas nous permettre de résoudre le problème et d'avoir une société où il y a équité, où il y a justice.
Quelles sont les causes? Quelles sont les causes selon vous, très rapidement?
Les causes selon moi, c'est qu'il y a des personnes aujourd'hui, par exemple des hautes personnalités, qui ne tiennent pas compte des intérêts de la population. Lorsque vous voulez faire un forcing, c'est vrai, aujourd'hui nous voyons qu'il y a rentrée parlementaire, il y a des, c'est une session purement budgétaire, vous l'avez dit, mais nous savons qu'il y a des arriérés au niveau du calendrier de la session passée, qui seront peut-être récupérés. Je parle là par exemple de l'entérinement du choix des Malonda, vous savez dans quelles circonstances et dans quelles conditions cela a été entériné. Je parle ici de tout ce qui s'est passé autour du remplacement de Jean-Marc Kabound. Donc, c'est tout cela qui constitue aujourd'hui des causes qui énervent la population congolaise. Et lorsque vous provoquez, pour les chrétiens, ils savent que on leur dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Donc, le parent ne peut pas se dire, parce qu'il est parent, il doit irriter les enfants. Et lorsque l'enfant réagit, en ce moment-là, il brandit la loi. Donc, nous disons que nous devons chacun être responsable par rapport à ces actes qui ne doivent pas appeler à des réactions qui vont énerver la population congolaise, par exemple.
Denis Kaninda, vous évoquez un peu déjà le contenu de cette session budgétaire. Pensez-vous qu'il y aura suffisamment le temps pour boucler le dossier du budget avec ces nombreux va-et-vient dans les deux chambres du Parlement et pour aborder d'autres matières dont on sait qu'il y a beaucoup qui sont urgentes aussi.
Je crains beaucoup que nous puissions assister à une session qui est censée être budgétaire, mais qui puisse être transformée en une session politique, avec des arriérés politiques. C'est pourquoi moi je crois que nous devons en ce moment-là, la population, la société civile et nous tous, essayer d'être très regardant pour que le gouvernement puisse transmettre à temps, comme l'a voulu, comme l'a souhaité Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, la loi budgétaire à temps pour que le projet soit examiné rapidement au niveau de la Chambre basse et puisse aller au Sénat. Donc ils ont très peu de temps, mais je crains, parce que lorsque vous voyez Madame la Présidente de l'Assemblée nationale insister sur la sécurité de l'hémicycle, lorsque vous voyez le président du Sénat insister sur la sécurité de l'hémicycle, est-ce que ça cache quelque part l'intention de vouloir faire passer des lois qui vont énerver la population, mais on aura déjà pris des dispositions avec le gouvernement pour empêcher à la population d'accéder au site du Palais du Peuple pour manifester contre ce que le Parlement voudrait faire, permettez-moi la redondance, contre la volonté du peuple. Donc je crains que la session, au lieu qu'elle se concentre sur la loi budgétaire, mais qu'elle soit transformée en une session politique.
Jean-Marie Nkamboa, un des députés du FCC, a été très séparatiste dans ses propos récemment. Alexis Thambo Mwamba lui-même n'a pas été très courtois avec une de ses collègues au Sénat. Et le président de la République est constamment pris à partie par des personnalités de rang inférieur du FCC. Comment aujourd'hui prendre avec sérieux le discours d'Alexis Thambo Mwamba ou de Jeanine Mabunda qui tous deux dénoncent le tribalisme, et bien évidemment qu'il y ait quelque chose à dénoncer, et appellent à l'instrumentalisation de la justice.
Merci, confrère, pour cette question. Je voudrais d'abord commencer par donner ma petite réaction au regard de ce que j'ai entendu de la bouche de Jenis Kanyinda. Je voudrais tout simplement rappeler aux uns et aux autres que dans une démocratie, dans une jeune démocratie comme la nôtre, nous ne pouvons pas d'un coup condamner les actes qui ont été posés, notamment les tribalismes, notamment les injures et autres, et en même temps trouver une explication pour ces injures. Donc en réalité, on n'a rien fait, on n'a rien condamné, et on applaudit ce qui a été fait parce que ça a été fait, ce sont des actes qui ont été posés par les gens du camp que l'on supporte, que l'on soutient.
Jean-Marie, alors on les applaudit. Jean-Marie, on peut bien dénoncer quelque chose tout en interpellant sur les raisons qui peuvent être à la base de celle-ci pour que la prochaine fois, on évite les éléments qui peuvent faire ressurgir les mêmes réactions, non?
Lorsque vous scrutez l'air agir ou bien l'air propos, ils ne vous disent pas qu'il y a eu un problème quelconque. Ils ne vous disent pas que nous avons proféré ces injures gratuites parce que la personne la concernée a posé tel acte et tel acte. Il n'y a rien comme acte qui a été posé.
Jean-Marie Kamboi.
Ce sont des injures gratuites.
Jean-Marie Kamboi.
Qui ont été proférées et que l'on doit condamner. Moi, je pense que nous devons condamner. En les condamnant, bien sûr, mais nous devons réfléchir pour voir dans quelle mesure ces actes-là ne peuvent plus se reproduire.
Jean-Marie Kamboi.
Jean-Marie
Kamboi, pourquoi?
Je vais quand même développer mon idée. Vous avez laissé beaucoup de temps à Jenis.
Vous avez la parole. Le fait d'intervenir pour moi ne vous coupe pas la parole. C'est le débat. Pourquoi le Parlement n'a jamais réagi ou aucune de ses personnalités n'a réagi immédiatement après le discours assez grave du député du FCC qui a presque appelé au lynchage d'une tribu dans son propre pays?
Nous devons chercher à les combattre, à les condamner pour que prochainement elles ne se reproduisent.
Ça, vous avez déjà dit.
Nous constatons qu'au sein des partis politiques de notre pays, il y a un problème d'éducation civique des militants. Il y a un problème d'encadrement des militants. Moi, je pense que nous devrions vraiment nous focaliser à l'encadrement, à l'éducation civique de nos militants, pour que ces faits qui sont déplorés aujourd'hui ne se reproduisent. Parce que quiconque a touché à Mabunda, qui ne vous dit pas demain qu'il peut toucher une autre personne du pays? Voilà pourquoi il faut éteindre le feu avant qu'il ne puisse atteindre toute la maison.
Jean-Marie Kamboi, je vous comprends.
Oui, je reviens à votre question.
Je vous comprends tout à fait. Vous avez raison d'argumenter comme vous l'argumentez, mais moi j'ai aussi la responsabilité de vous poser la question. Ok, ils ont dénoncé, c'est bien, ils ont été touchés, on comprend, mais pourquoi cette réaction à double temps, deux poids, deux mesures? Il y a quand même un peuple ou une ethnie qui a été mise en danger par les déclarations de quelqu'un. Là, on parle d'une autorité, mais tout un groupe de population a été mis en danger par un discours inacceptable. Pourquoi ces responsables du pays n'avaient pas réagi à ce moment-là?
Je pense que dans les discours, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, un accent particulier a été mis pour condamner tous les discours tribalistiques. Et cela a été dit ouvertement et publiquement pour que, s'il y a eu des gens qui les ont prononcés dans le passé ou qui veulent les prononcer plus tard, qu'ils ne s'hasardent plus sur ces terrains-là, sinon toutes les institutions et la justice de notre pays sont braquées sur leur chemin. En plus, il est vrai qu'on a tous appris sur les réseaux sociaux, on a tous suivi, mais à trouver des mots justes qui ont été prononcés par le député dont vous dites pour s'attaquer à une autre communauté, je n'ai pas du tout trouvé cela dans son discours. Ce que les autres ont fait, ce sont les analyses pour dire que non, étant donné qu'il a dit ceci, c'est qu'il veut que la communauté telle puisse s'attaquer à telle autre. Mais ouvertement, il ne l'a jamais dit. Et c'est une vidéo qui a été coupée, balancée dans les réseaux sociaux hors contexte et qui a semé la bombe qu'elle a semée. Donc, disons tout simplement par rapport aux questions que vous me posez,
que nous avons un gouvernement de coalition, un gouvernement qui est géré par le FCC et CASH. Ce gouvernement n'aura des saluts que dans la cohésion, que dans l'unité, que dans l'entente. Je ne connais pas un projet malsain qui est préparé quelque part au niveau du FCC afin de mettre mal à l'aise les présidents de la République. Je ne le vois pas et je ne vois même pas qui prendrait cette initiative-là aussi longtemps que l'autorité morale du Fonds commun pour le Congo, le sénateur Azi qui était au Parlement, a prouvé sa volonté de continuer dans la coalition, mais aussi de continuer à soutenir le président de la République actuel jusqu'à ce qu'il termine son mandat.
Alors,
donc, tout ce qui est raconté par rapport au cabal et consorts, considérons aussi que les gens ont une liberté d'expression. N'importe quel individu peut se prononcer de sa façon, cela ne veut pas dire automatiquement que telle est la position du Fonds commun pour le Congo.
Serge Banzaba, du Congo central, où vous vous trouvez, ressentez-vous les mêmes craintes exprimées par les présidents des deux chambres du Parlement avec la même intensité? Avez-vous l'impression que le tribalisme, comme ça se dit fortement depuis Kinshasa ici, a vraiment pris du terrain? Et avez-vous l'impression qu'il y a plus d'ingérence ces derniers temps qu'il y a un peu plus tôt?
Bon, je pense que la notion du tribalisme, c'est un peu difficile de déjauger avec exactitude. Parce que, tout d'abord, on se dit, c'est quoi le tribalisme? Parce que il n'est pas interdit d'aimer sa tribu. Moi, j'aime bien ma tribu, ici au Congo central. Mais ce qui est mauvais, c'est de se méfier, c'est de ne pas aimer les autres tribus. Aimer sa tribu, c'est pas un problème. Mais avoir de la haine envers les autres tribus, c'est ça le tribalisme. Mais ceux qui aiment bien les tribus n'ont pas tort. Mais ici, je pense que nous ne devons pas condamner les discours de ces jours-là prononcés par les deux présidents des deux chambres. On doit faire très attention parce que j'ai l'impression que on veut justifier le mal par le mal. Le fait que Zadi Mamounda et le président du Sénat puissent condamner le tribalisme, puissent condamner certaines pratiques, est-ce qu'ont-ils tort? Je pense qu'on ne doit pas continuer à dire que non, eux-mêmes. Ce genre de discours, ce sont devenus un peu fréquents, trop fréquents auprès de nos amis du BICAS. Hein. Je pense que c'est pas bon.
Serge Banzaba, avez-vous l'impression que les autorités, et notamment le Parlement, même s'ils étaient en vacances parlementaires, ont suffisamment bien géré tous les appels à la haine, toutes les déclarations de tribalisme qui ont eu lieu ces derniers temps?
Oui, hein, je me dis que nous avons les mêmes impressions avec... J'ai aimé, ce qui est vrai, si nous prenons garde, il y aura vraiment une chute par rapport à tout ce qu'ils ont évoqué là-bas. Mais moi, je pense que pour que ça aille trop droit au but, je souhaite à ce que les deux autorités morales puissent vraiment se parler le plus tôt possible. Parce que j'ai appris qu'ils devaient se retrouver déjà l'avant-hier, sinon hier. Et j'apprends également qu'ils vont se retrouver avant la fin de la semaine. Je pense qu'ils doivent se parler parce que ce qui est vrai, il y a méfiance. Il y a une crise de confiance entre les deux parties, FCC et puis CASH. Ils doivent vraiment se parler pour un peu aplanir les choses. Parce que ce que nous avons vécu l'autre fois risque de revenir. Du fait que les deux présidents puissent réclamer la sécurisation de ces deux institutions n'est pas du tout mauvais parce que depuis un certain temps, ils sont ciblés.
Serge Banzaba, quand on vous entend, on a l'impression justement que le FCC, les personnalités du FCC sont mises en danger par quelqu'un, mais ce serait quand même incompréhensible, non? Puisque le FCC contrôle plus de 70% de l'animation des institutions, ça on doit pas l'oublier. Alors quelqu'un qui contrôlerait ce niveau de l'action gouvernementale, qui pourrait le mettre en difficulté, selon vous?
Vous avez compris, le G et du FCC et du CASH, les deux à la fois. À chaque fois qu'il y a un problème, ils font recours à la rue. La même pratique du côté du FCC, la même pratique du côté du CASH. Vaut mieux avoir un problème avec des services sécuritaires organisés que d'avoir des problèmes avec la population. Ici, je me pose la question. Lorsqu'ils avaient signé leurs accords, le peuple n'était pas là, la population n'était pas là. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, les deux parties font recours à la population ou bien au peuple. On devrait faire très attention parce que seuls FCC et CASH connaissent très bien les vrais secrets de leur contrat. Lorsqu'ils l'ont signé, nous n'étions pas là. Mais quand il y a un problème, ils n'arrivent pas à se supporter, ils font recours à la population. C'est population, je ne dirais pas naïve, ce peuple, je ne dirais pas naïf, mais nous devons faire très attention.
Merci. Notre deuxième sujet nous amène à parler plutôt du Sud Kivu. La délégation du gouvernement provincial conduite par le ministre de la Santé et des Mines, parti pour Kamituga, a repris la route mercredi pour Bukavu. Le maire de la ville rapporte que les 20 personnes sur un total pressenti de 50 victimes de l'éboulement de la mine à Kamituga ont été retirées des décombres et enterrées. Le maire de Kamituga ajoute que le site d'exploitation concerné a été fermé sur décision du ministre des Mines. On écoute un extrait des propos de Bundia Mupila, maire de Kamituga, au micro de Michel Chirimwami.
Il y a déjà 18 corps retrouvés, mais les travaux continuent. Nous sommes avec la délégation venant de Bukavu et de la province. Ici, nous sommes maintenant à la réunion de constatation et d'évaluation des produits déjà donnés. Nous sommes maintenant avec la société civile, les membres de commission de réserve et le conseil de sécurité pour trouver les voies et moyens. Comment est-ce qu'il faut procéder aux enterrements? La mairie a déjà préparé le cercueil. La province, on ne sait pas ce qu'ils ont apporté, mais on attend de terminer à dialoguer avec eux.
Dionite Kaninda, journaliste responsable de la chaîne en ligne Congo Market TV, quel commentaire suscite en vous cet épisode de Kamituga avec plusieurs dizaines de morts?
Non, mon cher confrère, je suis triste de ce qui est arrivé à Kamituga, parce que perdre la vie dans ces conditions-là, c'est très atroce. Vous sentez comment vous mourrez, c'est très atroce. Mais ce qu'il faut dire, c'est ici la responsabilité de nos autorités au niveau provincial. Moi, je crois que chacun doit faire son travail. Nous devons être dans une société qui encourage que chacun fasse son travail. Et que lorsque chacun n'a pas fait son travail, qu'on ait une pression par rapport à cela. Normalement, le maire de la ville aujourd'hui devait être interpellé. Parce qu'on a tendance à tout ramener vers la plus haute autorité. On va dire, bon, le gouverneur. Si on ne voit pas le gouverneur, certains vont dire, non, c'est le premier ministre ou les ministres. Après les ministres, on dira, mais il y a un responsable. Ça signifie que le président de la République ou le premier ministre ne peut pas être partout au même moment. Mais il y a un maire de la ville. Il y a des chefs de territoire, des chefs de quartier. Est-ce qu'ils font leur travail? Lorsque la population est exposée, est-ce que ces gens-là font leur travail? Ça, c'est d'une part. Deuxième part, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est le fruit des manques de travail. Il n'y a pas de travail pour les populations qui sont dans ce coin du pays.
Mais Denis Kaninda, les mines artisanales sont bien acceptées en République démocratique du Congo et sont gérées selon une certaine législation. Et quand on regarde les circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé, c'est en principe un accident. Pour le moment, on n'a pas l'impression qu'il y a une négligence ou bien une mauvaise action des responsables qui seraient à la base de cette situation. Les intempéries et les accidents, il me semble qu'il y en aura toujours, non?
Les intempéries ne sont pas prévisibles. Mais qu'est-ce qui était fait? Parce qu'on sait qu'on approche la saison pluvieuse. Ça m'amène, excusez-moi, à faire un petit raccordement avec la situation latente de Kinshasa. Aujourd'hui, lorsque vous regardez toutes les rivières de Kinshasa, les petites rivières, par exemple, on les appelle toutes Kalamu, mais ils ont des noms. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui par exemple, l'autorité provinciale pour prévenir les inondations? Rien n'est fait. On ne peut pas, c'est vrai, prévenir les intempéries, oui, mais on peut prévenir les catastrophes à ce point-là. Parce que si on avait pris des précautions, pour se dire, par exemple, ici, l'eau peut arriver facilement en cas d'inondation, on pouvait mettre, je sais pas moi, des digues, on pouvait mettre des conduites d'eau pour empêcher à la pluie ou aux eaux de pluie de pouvoir entrer dans les mines. Ça pouvait être fait. Alors, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que il y a une léthargie au niveau des services en province ou au niveau des entités décentralisées. et que pratiquement ils ne font rien pour protéger ou sécuriser la population. Nous déplorons ce qui est arrivé à Kamituga aujourd'hui, mais ne soyez pas surpris qu'à l'émission prochaine, on parle de ce qui pourra arriver à Kinshasa à la suite des inondations. Mais est-ce que chacun fait son travail? C'est là le plus grand problème. Quand j'évoquais la question de manque de travail, c'est parce que lorsque vous regardez la plupart des gens, même des enfants qui se retrouvent dans des mines aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont que faire. Mais si les gens aujourd'hui font le travail, la réglementation existe. Mais est-ce que l'autorité fait agir la réglementation comme ça demande? Je ne crois pas que la réglementation expose la population congolaise à des catastrophes comme ça. Je ne pense pas. Il y a eu une négligence quelque part au niveau des autorités locales. Et ça, ils doivent être sanctionnés. Et quand je dis chacun doit faire son travail, c'est notamment les cours et tribunaux au niveau local qui doivent agir pour que finalement, pareille situation n'arrive pas en prenant des précautions pour respecter la réglementation.
Alors, tout très rapidement, vous sembliez dédouaner justement tout le monde et vous appelez à la sanction en même temps. Qui pensez-vous est le plus responsable de cette situation particulière?
C'est d'abord le maire de la ville, parce que c'est arrivé dans son entité. C'est d'abord lui qui doit être interpellé en attendant de mener des enquêtes pour voir établir la responsabilité du gouverneur, de tout ce que vous voulez, mais d'abord l'autorité locale. Moi, je vois le maire. Pourquoi on fait parler le maire aujourd'hui? C'est parce que c'est l'autorité la plus proche de ses compatriotes.
Merci. Serge Banzaba, il y a eu cet incident à Kamituga et des vies humaines ont été emportées. Faut-il à ce stade incriminer quelqu'un ou faut-il d'abord, comme ça a été un peu déjà fait, secourir les gens et sanctionner en plus si jamais il y a à sanctionner?
Il faut condamner et beaucoup de gens seront condamnés parce que ce soit l'imprudence ou la négligence, les deux sont condamnables. Ça, nous devons le savoir. Les deux sont condamnables. Ici, on dit faut punir, mais c'est le maire, faut punir le gouverneur. Mais ici, on ne doit pas oublier que... on doit faire un peu une étude approfondie. Dans cette mine, il y avait des enfants qui faisaient quoi? Qui travaillaient. Et pourtant, notre pays est signataire de beaucoup de conventions protégeant l'enfant, protégeant même les enfants mineurs, ainsi de suite. Il faut faire très attention. Ici, je pose la question, où se trouve les inspecteurs du travail? Il faut aussi commencer par là. Le gouverneur ne doit pas faire tout à la fois. Où se trouvent les inspecteurs du travail qui sont censés faire des descentes sur les lieux pour contrôler comment les gens travaillent? Ce qui s'est passé au site Kim, ça se passe un peu partout ailleurs. Même ici au Congo central, vous allez voir, il y a des chantiers qui sont ouverts, des carrières qui sont par-ci, par-là. On ne tient pas compte des mineurs ou des adultes et tout le monde parfois travaille. Et ils sont payés combien? On se pose la question. Les inspecteurs du travail doivent également se remettre en cause parce qu'ils doivent être censés connaître qui travaille dans des mines, mais également dans quelles conditions. Il faut que l'entreprise puisse réunir les conditions adéquates pour que les enfants, sinon les agents, puissent être sécurisés. Tout cela est négligé. Ici, je ne voudrais pas d'abord condamner les qui que ce soit. Je commence par les inspecteurs du travail. Et il faut voir, ils sont chapeautés par qui? Donc, les ministres.
Merci, Serge Banzaba. Jean-Marie Nkamboa, avez-vous l'impression que les mines artisanales en RDC sont de trop, sont suffisamment bien gérées? Y a-t-il eu, dans cet incident, faute de quelqu'un? Faut-il sanctionner? Et qui, plus précisément?
Je voudrais tout simplement dire que tout en nous inclinant à la mémoire des Congolais qui sont décédés, je voudrais tout simplement dire que ce qui est arrivé à Kamituga, c'est pratiquement l'image que nous donnons de notre pays. C'est un peu ce que représente notre pays aujourd'hui. Moi, je me rendrai directement dans la province du Sud Kivu afin de demander au gouvernement provincial quelle est la politique du développement en prenant en compte les secteurs miniers. Parce que la situation qui se déroule à l'est du pays étonne pratiquement tout le monde. Vous trouverez par exemple que le Rwanda n'a pas la cassiterite sur son sol, mais néanmoins a une usine. Voilà pourquoi je voudrais que cette situation puisse interpeller nos autorités nationales et provinciales
pour profiter de cette occasion afin d'investir dans les domaines. S'il est prouvé que sur cet endroit, il y a une mine, c'est-à-dire qu'il y a des minéraux qui ont été prouvés et certifiés, pourquoi alors ne pas profiter de l'occasion avec les partenaires extérieurs ou nationaux, construire là-dedans une usine qui permettrait à tous ces Congolais-là de travailler et d'être payés honorablement, plutôt que d'exploiter de l'or et de le vendre à la contrebande, et cet or-là va alimenter d'autres usines que les usines congolaises. Voilà pourquoi nous pensons que c'est une situation qui doit être considérée au plus haut niveau et que les mesures soient adoptées pour que pareille situation ne se reproduise. Mais et comme nous sommes pendant une session essentiellement budgétaire au Parlement, j'aurais aussi voulu que l'on puisse développer une transformer tous ceux qui sont aujourd'hui des clandestins, la possibilité de les transformer en travailleurs qui sont rémunérés, qui sont payés, ce qui va les éviter à être victimes de ces risques-là. Parce que pendant que nous plairons les éboulements aujourd'hui à Kamituga, je vous informe, confrère, qu'à l'Afrique du Sud, dans la mine d'Ashanti Gold, il y a des étages en dessous du sol, des kilomètres et des kilomètres. Pourquoi chez nous, nous ne pouvons pas apprendre à construire des usines, à moderniser nos infrastructures, afin de mieux sécuriser nos compatriotes, afin de permettre que les compatriotes qui travaillent sont payés et en même temps contribuent au développement de leur pays.
Merci Jean-Marie.
C'est à cela que cela me préoccupe moi.
Merci Jean-Marie Kambwa. Vous avez presque abordé la dernière question que j'allais vous poser, celle des solutions. Mais puisque nous sommes en train de terminer, y a-t-il une dernière phrase que vous voulez ajouter comme mot de la fin de votre intervention?
Bon, comme mot de la fin, je voudrais aussi constater qu'on a fait observer le confrère Zenith Kanyinda. Nous avons une population largement, pratiquement plus de 80% qui est au chômage. C'est-à-dire que non, dans les budgets que l'on prépare au niveau central, pourquoi pas dans les budgets provinciaux, si on peut quand même faire un effort afin de pouvoir créer des emplois. Parce que des situations que nous sommes en train de vivre, que ce soit ici à Kinshasa, avec les gens qui injurient en désordre et consort, ça doit interpeller l'autorité qui doit comprendre que les Congolais ont besoin de l'emploi. Un Congolais qui a un emploi, qui travaille, n'aurait pas assez de temps pour aller injurier des gens en désordre.
Merci.
N'aurait pas de temps d'aller marcher sans comprendre les bien sens même de la marche ou de la démarche.
Merci Jean-Marie Kambwa. En quelques mots, pour conclure notre émission, Serge Banzaba, que peut-on retenir de cet entretien?
Moi, je pense que tout tourne autour de la politique, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement malheureux qui se passe à travers le pays, nous regardons toujours les politiques. Ici, je pense que FCC cache pas d'autres raisons de parler le même langage, parce que j'ai également suivi le discours de l'autre fois au Sénat, le président a pratiquement indexé la justice congolaise. Moi, je pense que la justice et le Parlement doivent vraiment collaborer pour que les choses aillent de mieux en mieux. En l'occurrence, ce qui s'est passé au niveau ici de Kivu, il faut également mettre en mouvement la justice pour qu'on puisse finir tous ceux qui sont responsables.
Voire
même retirer la licence auprès de cette entreprise-là. Mais vous allez constater que à chaque fois lorsqu'on veut agir, ici il s'agit de quelqu'un du FCC qui veut agir, l'autre partie commence à se soulever et vice versa. Je pense qu'ils doivent se faire mutuellement confiance parce que la politique c'est qui décide de tout. Si la politique ne parle pas le même langage, la justice ne va pas marcher, encore moins nos entreprises. Voilà ce que je
te
dis comme mot de la fin.
Merci Serge Banzaba. Denis Kanyinda, tout en étant très très bref dans votre intervention, c'est quoi votre mot de la fin?
Mon mot de la fin, c'est de dire aux politiques de penser aux intérêts de la population congolaise. Il n'y a aucun accord, il n'y a aucune entente qui puisse surplanter les intérêts de la nation congolaise. Et lorsqu'on commence à dénoncer les ambassades, pour dire qu'il y a des ambassades qui interfèrent dans les affaires intérieures du pays, je crains beaucoup que ça soit face à des questions qui concernent les intérêts de la population congolaise. Et pour ça, je demande au président de la République de ne pas fléchir parce que les intérêts de la population congolaise passent par-dessus tout.
Merci Dionis Kanyinda, merci à tous les trois messieurs. Bob Landou, Kéline Kouté, Guy Maté, Axel Goncho m'ont aidé à préparer cette émission. Donna Madimba, c'est moi à la présentation. Tribune de presse, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.